La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auquel répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Il y a 15 jours, lors de notre dernier entretien, nous avons évoqué très brièvement la question du sacrifice perpétuel. Je me doute un peu que ce sacrifice a quelque chose de particulier à nous dire au sujet du Messie, et c'est ce que peut-être nous allons voir aujourd'hui.
En effet, nous avions évoqué le caractère transitoire du culte lévitique avec son cortège de sacrifices. Il y avait toutefois un sacrifice un peu spécial qui était désigné sous l'appellation « sacrifice perpétuel ».
Donc justement, si ce sacrifice devait être perpétuel, c'est-à-dire ne pas s'arrêter par définition, comment est-ce qu'il a pu cesser après la destruction du temple en l'an 70 ?
En réalité, il y a un autre épisode auparavant dans l'histoire d'Israël où l'offrande du sacrifice perpétuel avait cessé, et je vais y revenir. Mais lisons le passage en question dans Exode chapitre 29, verset 38. « Voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux d'un an chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les deux soirs. » Un petit peu plus loin, verset 42. « C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Alors avant de poursuivre, il convient de faire quelques remarques. Le sacrifice perpétuel, Korban Tamid en hébreu, à la différence des autres sacrifices, se compose de deux animaux, deux agneaux. L'un offert le matin, l'autre le soir, plus exactement ce qu'on appelle entre les deux soirs, c'est-à-dire au crépuscule. Il n'est pas précisé l'objet de ces sacrifices, sinon qu'ils sont faits au nom de tout le peuple et non d'un individu en particulier. L'holocauste est quotidien et, a priori en tout cas, l'ordonnance est prévue pour durer à perpétuité, même le Shabbat. Une telle permanence a forcément une importance quelque part. En première lecture, il semble difficile de saisir le sens primaire de ce sacrifice quotidien. De plus, un sacrifice destiné à être offert pour toujours, à perpétuité. D'autant qu'il n'est plus offert, depuis la destruction du temple en 70. Du reste, les rabbins lui ont aujourd'hui substitué la prière de Mincha l'après-midi, vers 15h. Je noterai pour ma part le fait que le passage relie ce sacrifice particulier offert devant la tente de la rencontre, à la présence divine, le lieu où Dieu s'adresse au peuple, comme cela est dit au verset 42. La communion avec le Seigneur est comme conditionnée au sacrifice perpétuel. Bien plus, il semble rappeler l'offrande de l'agneau pascal, comme en fait l'allusion, sans le dire aussi, le verset 46. Verset 46, « Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ait fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux, « Je suis l'Éternel, leur Dieu. » En effet, la référence à la sortie d'Égypte est nécessairement conditionnée au sacrifice initial dont on a rappelé l'importance capitale il y a déjà quelque temps. Le sang versé du sacrifice pascal est incontournable pour s'approcher de Dieu et éviter le jugement qui doit nous atteindre. Le Korban Tamid, donc le sacrifice perpétuel, de même, semble jouer un rôle aussi crucial.
Le sacrifice perpétuel est donc à relier au sacrifice de la Pâque que les Israélites avaient accompli lors de leur sortie d'Égypte, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. On peut même affirmer que si la célébration pascale est annuelle, l'offrande quotidienne du sacrifice perpétuel s'inscrit de la même manière dans la mémoire collective du peuple d'Israël. L'un comme l'autre ont un message prophétique singulier à communiquer à l'ensemble du peuple d'Israël. La tradition juive imposait d'ailleurs, en tout cas à l'époque du Temple, que le sacrifice de Pessah, celui de la Pâque, soit offert après le sacrifice perpétuel de l'après-midi à 15 heures. Mais pour bien des croyants et pour ceux et celles qui étudient les prophéties, la question du sacrifice perpétuel en liaison avec le sacrifice de Pessah résonne d'une façon tout à fait particulière. Très curieusement, Yeshua, Jésus, le rappellera en faisant référence à un passage du prophète Daniel. Yeshua annonce à ce moment-là à ses disciples les circonstances qui prévaudront avant son retour.
Oui, alors on passe de l'Exode, à l'Évangile et maintenant dans le livre de Daniel. Dites voir, le chemin pour percer le mystère du sacrifice perpétuel semble assez compliqué.
Oh, pas tant que cela, rassurez-vous. Jetons d'abord un œil sur la parole de Yeshua faisant référence à Daniel. Il s'agit d'un passage dans Matthieu chapitre 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » Examinons maintenant la parole prophétique de Daniel, cette fois-ci dans Daniel chapitre 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Alors, le texte et surtout certaines expressions restent plutôt énigmatiques, il faut en convenir. Outre l'intérêt naturel que l'on peut avoir sur les signes de la fin des temps, cette référence singulière à propos du sacrifice perpétuel est plutôt surprenante. Nous n'avons pas le temps ici, et ce n'est pas directement notre propos, d'entrer dans les détails des prophéties eschatologiques. Mais on peut affirmer quand même les choses suivantes. Yeshua décrit des signes divers dont beaucoup de commentateurs ont parlé, mais sans pouvoir déterminer avec précision les temps et les moments. Du reste, le retour du Seigneur est toujours évoqué sans pouvoir dire le jour exact et surtout l'heure. Mais alors direz-vous, mais quel en est l'intérêt ? On peut sans doute en conclure que ces signes des temps de la fin sont là pour avertir et surtout permettre aux croyants de se tenir à tout moment prêts. Du reste, ne connaissant pas le jour et l'heure de sa propre mort, c'est finalement tout homme qui doit à chaque instant se tenir prêt à comparaître devant le Seigneur, son juge ou son rédempteur. Au-delà des signes qu'il convient d'étudier, autant qu'on puisse le faire, il y en a un que Yeshua présente comme une sorte de point d'orgue quand il dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » Et le prophète Daniel de préciser « Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Wow. » L'abomination de la désolation et l'abomination de la dévastation recouvrent ici une même notion. Or, c'est justement à cet endroit que nous retrouvons mentionné le sacrifice perpétuel. L'abomination dressée dans le sanctuaire constitue ici, semble-t-il, un signe distinctif.
Alors justement, une abomination, cela paraît plutôt laid et je dirais inapproprié dans un sanctuaire. Donc comment comprendre ce signe s'il constitue quelque chose de primordial au milieu de tous les signes des temps de la fin ?
Alors l'hypothèse la plus sérieuse relie la prophétie de Daniel à la profanation du sanctuaire intervenue selon les termes mêmes de Daniel en 164 avant Jésus-Christ par un souverain qui s'appelait Antiochus Épiphane. Et ce dernier fit la guerre aux Juifs et même l'emporta sur eux. Il profana le temple et établit la divinité de Zeus dans le lieu saint. C'est un récit que l'on retrouve aussi dans les livres de Judas Maccabée. Et d'ailleurs, Judas Maccabée qui mettra fin à cette profanation et le récit donnera d'ailleurs lieu à la fête de Hanouka, aujourd'hui bien connue au mois de décembre en général. Ceci étant, Yeshua parle, lui, d'une profanation encore à venir. Celle d'Antiochus Épiphane en est peut-être finalement qu'un prélude, près de 200 ans avant le discours de Yeshua. La différence se situe sans doute dans le fait que Yeshua parle d'une fin des temps qui dépasse le cadre de l'apostasie du seul Israël. Bref, ce n'est pas si simple. D'autres commentateurs suggèrent plusieurs autres options. Pour certains, la destruction du temple en 70 par les armées de Titus se serait accompagnée d'une profanation semblable à celle décrite par le prophète. En réalité, les récits historiques connus sont assez peu clairs à ce sujet. Or, l'avertissement de Yeshua, lui, est très clair et il semble que le lecteur ne saurait être confus sur le sujet. La vigilance du lecteur doit en être la conséquence principale. Par ailleurs, ce signe particulier intervient peu de temps avant le retour de Yeshua. Or, nous sommes au XXIe siècle et il semble inconcevable qu'un tel signe soit suivi d'une période aussi longue. L'effet en serait que trop atténué.
Oui, mais alors, quelle solution nous proposez-vous ? Quelle profanation si abominable pourrait se produire au point de faire cesser le sacrifice perpétuel ?
C'est là qu'il nous faut bien comprendre la nature de ce sacrifice qui était offert quotidiennement au temple. Les commentateurs juifs de la Bible comprennent que ce sacrifice perpétuel est celui qui, chaque jour, finalement purifie du péché, non pas commis de façon objective tous les jours par des choses que l'on peut reconnaître dans la loi, mais tout simplement le péché commis dans la conscience de celui qui s'approche de Dieu. En effet, la loi traite du péché comme commis en général par inadvertance, par des péchés objectifs que l'on peut reconnaître, mais le sacrifice perpétuel touche au problème du péché qui se dissimule dans nos consciences. Et ce péché-là est évidemment souvent considéré comme bien plus important que tous ceux que l'on peut observer au quotidien. C'est pourquoi ce sacrifice-là a une importance primordiale, une importance capitale. Sans celui-là, le reste finalement n'a que peu d'importance. Celui-là est le plus important pour s'approcher de Dieu. Alors, nous en avons déjà parlé la dernière fois avec l'explication du sens rabbinique de Matthieu 5, verset 17. Quand Yeshua annonce d'une part que la loi ne sera pas abolie, et de l'autre qu'il accomplit lui-même, pleinement toute la loi pour opérer une purification jusque dans les consciences. Et on peut considérer d'une certaine façon que le sacrifice que Yeshua se propose de faire en sa personne est finalement le sacrifice perpétuel, celui qui va aller purifier non seulement des actes, mais purifier également la conscience de celui qui s'approche de Dieu.
Et en ce qui concerne le signe prophétique ?
Eh bien, la cessation du sacrifice perpétuel pourrait bien être le signe de la rébellion ultime contre Dieu, une apostasie générale et une guerre ouverte contre Dieu. Et on ne peut exclure à ce sujet la restauration du temple à Jérusalem et ensuite sa profanation manifeste par un homme que l'on appelle anti-messie ou antichrist et qui serait ouvertement opposé à Dieu. Mais là, c'est un vaste sujet, assurément.
Notre émission touche à sa fin. Nous poursuivrons dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Au revoir, Guy.
Au revoir.
Merci, Guy. Merci, Benjamin. Retrouvez le thème et les questions du jour sur le site internet www.lebergerdisrael.org. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.